Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Obio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Ah bah tiens, dites donc, c'est la deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité Delphine Hennequet, la Maïté de la naturopathie. Coucou Delphine, ça te va tellement bien. Non, il y a quelque chose comme ça quand même. C'est
ouais, Maïté, Jean-Pierre Coff, ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup ces petites comparaisons, c'est très sympathique.
Ou Gemini Cricket, notre bonne conscience à nous. Et aujourd'hui, tu nous l'as annoncé la semaine dernière. Alors, tu es naturopathe, hein, ça faut le dire quand même au passage.
Oui, ça compte.
Au magasin Obio, espace géré par Ingrid et Valérie. On est tous voisins. Et puis depuis quelques années maintenant.
Tu nous engueules, ouais, je vous
engueule. Tu nous chafouines les oreilles et t'agis. L'hippocampe. C'est bien ça aussi,
ouais,
agitatrice de l'hippocampe.
Tout à fait.
Docteur Bach aujourd'hui, Eduardo.
Ouais,
Ricardo Bach.
Ouais, bah, de temps en temps, on fait une petite chronique sur des petits personnages qui ne sont pas forcément très très connus. Et expliquer leur parcours, c'est intéressant aussi de comprendre leur démarche pour comprendre aussi pourquoi ils ont élaboré certains produits. Et c'est un petit peu l'objet de la chronique d'aujourd'hui.
C'est un peu historique.
Voilà, c'est un peu historique.
Ouais,
c'est la chronique historique.
Super.
Voilà, du Docteur Bach, donc, qui est né en Angleterre. À côté de Birmingham. Mmh. C'était déjà en 1886. Hein. Donc, bon, voilà.
Vous êtes croisés, non? Rapport à la belette de Winchester.
Ouais, on s'est croisés, ouais, à un moment. Ben, c'était pendant qu'il était. Ben, justement, moi, c'était en quelle année? En
1784, je me trompe
à
tout
1700,
le temps.
Ah, 1700, bah attends, donc du coup, 1784, excuse-moi, on se trompe d'un siècle, là. Donc, on s'est pas vraiment croisé. Non, il attaque en fait, c'est un monsieur issu d'une famille d'artisans, et il attaque en 1905 des études de médecine. Donc, c'était quelqu'un qui avait déjà un intérêt pour la nature, qui était très curieux. Et en 1912, donc, il ouvre un cabinet à Londres. Et il finit aussi par travailler en milieu hospitalier. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup auprès de ses patients. Il soigne les pauvres gratuitement, voilà. Mais il développe et puis sa curiosité en fait le pousse à devenir un bactériologiste. Et il va faire des recherches en fait sur l'intoxication intestinale en lien avec les maladies chroniques. Il va étudier. Déjà, c'était quelqu'un qui avait à cœur d'étudier ce fameux microbiote. Et en 1917, alors qu'il était en train de soigner les blessés de guerre, malheur, il tombe en fait dans le coma. Et en fait, suite à une hémorragie interne, il a malheureusement un cancer abdominal et on lui annonce en fait pronostic vital 3 mois.
Mmh.
Bon, craint du boudin un peu.
Tu as dit là.
Ça craint du boudin.
Mieux articulé tout de suite.
Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui, dans sa vision de la vie, en fait, avait déjà compris parce qu'il observait beaucoup ses patients et il dira tout le temps qu'en fait, ce qu'il souhaitait soigner, c'était des gens et pas forcément des maladies. Il avait compris à quel point, en fait, le tempérament, l'attitude, le comportement qu'on peut et la vision des choses qu'on peut avoir peut influer considérablement sur la pathologie et l'évolution de la pathologie. Et il nous le prouve puisque il est mort seulement 19 ans après l'annonce de ces 3 mois de qui lui restait à vivre. Donc, il a largement prouvé à quel point, en fait, le facteur psychologique pouvait être important. Et de là, il est tombé entre-temps sur les travaux d'Hahnemann, donc ça veut dire découverte de l'homéopathie, il devient homéopathe, et il travaille toute sa vie, à rechercher en fait les causes des déséquilibres. Donc on a parlé du microbiote, mais à plusieurs niveaux, et il finit aussi par se pencher en fait sur le psycho-émotionnel, et pour lui, la maladie, c'est l'expression d'un déséquilibre de la personne. Mais c'est d'abord la personne qu'il faut appréhender, essayer de comprendre. Vraiment.
Donc, jolie vision.
Un vrai chercheur, en fait. Il va essayer de trouver des remèdes positifs, des choses qui vont permettre à l'individu, en fait, de pouvoir faire face à ses propres conflits intérieurs et de pouvoir trouver en lui les ressources pour se rééquilibrer. Et c'est en fait, c'est là la vraie guérison, finalement. Il n'y a rien d'artificiel. Voilà, c'est pas
on a tout sur nous, on est équipé.
Exactement. Donc, pendant des années, il travaille hein, encore. Il est, voilà, il fait ses recherches, il soigne, il est très très actif, très très reconnu. Mais il finit par tout vendre et décide de s'isoler complètement. S'isoler et laisse en fait finalement sa sensibilité se développer. Et il s'isole dans la nature, se met vraiment à son écoute et essaye de trouver en fait, de décoder un petit peu ce langage de la nature pour voir qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que ça peut amener en fait de compréhension et peut-être de remèdes possibles pour aider les individus donc à se rééquilibrer puisque c'était quand même son but. Donc il travaille sans relâche hein, et puis il finit par nous mettre ces fameux 38 préparations florales au point qu'on connaît. Qu'on connaît, et en particulier, on connaît le remède d'urgence, voilà, qui est la 39e préparation.
Le Rescue.
Le Rescue Remedy, ouais. Voilà, qu'on appelle remède d'urgence, ou qu'on, voilà, ça peut être d'autres noms, mais c'est les 5 fleurs de secours, voilà. C'est celle qu'on connaît le plus. Et il a travaillé, en fait, avec une grande finesse, une grande écoute. Et moi, c'est rare que j'ai de l'admiration pour les gens, pour le dire. Mais je pense que c'est un personnage que je... Non, mais c'est pas très sympa. Non, mais on peut avoir, parfois... Non, rigole pas. On peut avoir, en fait, parfois une admiration pour une œuvre ou pour...
Non, t'es pas fan Béate comme ça demandé.
Non, il y a peu de gens qui
franchement. Le professeur Joyeux, non un peu, non. Robert Masson.
Non, pas du tout. Robert Masson. Non, mais j'éprouve pas comme ça de. Je peux être sensible à des idées, reconnaître du talent chez les personnes, mais.
Michel Sardou.
mais il y a peu de gens en fait qui vont susciter une vraie admiration entre. Par rapport à ce qu'ils disent, mais aussi par rapport à ce qu'ils sont. Voilà. Et je pense que c'est un personnage que j'aurais beaucoup aimé rencontrer.
Confucius ?
Mais Confucius, on ne va pas faire la liste. Non, mais bon, voilà, je suis sensible au Dr. Bach. Et donc, voilà, en fait, son but, c'était d'essayer de comprendre, en fait, le psychisme humain, d'aller, en fait, réharmoniser, en fait, tout ce psycho-émotionnel. En fait, l'âme, c'est un vrai travail de profondeur sur l'âme. Donc, il a mis au point, en fait, sa propre méthode de préparation. Il a tout mis au point. Il a vraiment fait des recherches. Il s'est trompé. Alors,
il les a testés sur lui-même.
Ben, il y a que comme ça. Il y a que comme ça. Testé sur lui-même, testé sur des proches. Et puis, il a fini par nous sortir, en fait, donc, ces 38 remèdes qu'on emploie, hein. Et en déterminant 7 groupes principaux, en fait. Le premier, c'est la peur, les autres, c'est l'incertitude, manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, abattement et désespoir, souci excessif du bien-être d'autrui. Voilà. Il a tissé comme ça, en fait, des choses. Et...
Souci excessif du bien-être d'autrui. C'est horrible, ça, la description, en fait, du profil
oui,
de la personne.
Oui, alors, parfois, quand on lit un peu la fiche correspondante, on se dit non mais oh, c'est vraiment très exagéré, mais on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de très très fort en fait pour avoir besoin de cet élixir là.
Il y a des études qui prouvent que les fleurs du Dr Bach ont une réelle efficacité, hormis le fait de les avoir testées, d'être naturopathe et de se dire oui ça tient la route et j'accorde.
Non parce qu'en fait à l'heure actuelle c'est comme l'homéopathie, c'est-à-dire que parce que là c'est un principe homéopathique hein, les élixirs floraux, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas de molécules actives présentes et observables dans le produit. Comme l'homéopathie, pareil, c'est-à-dire que c'est dilué, il n'y a plus en fait que la mémoire du produit.
Donc il a dû être taxé d'être un peu un charlatan.
Non, pas à l'époque, sinon ça n'aurait pas traversé le temps comme ça quand même. Hein. Ça a quand même traversé le temps. On est plus d'un siècle après toujours à utiliser en fait ces préparations qu'on conquit le monde aussi, puisque les élixirs floraux du Dr Bach se sont aussi exportés énormément. Parce que là, il était en Angleterre. Nous, voilà, on est en France, c'est pas très loin, mais ils sont également exportés. Il y a des gens qui ont continué aussi ces travaux sur d'autres, sur les messages et d'autres fleurs et d'autres végétaux qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Donc moi, je crois qu'à l'époque, il était quand même reconnu. Puis c'était quelqu'un qui était solide aussi, hein, qui avait de véritables connaissances. C'était un chercheur, c'était un curieux. Et je crois pas qu'il ait été accueilli forcément comme quelqu'un de farfelu. Non. Non. Maintenant, aujourd'hui, hein, on a l'impression, en fait, on n'a pas suffisamment d'humilité, en fait, face aux choses. On a l'impression que parce qu'on est capable, voilà, d'observer beaucoup de choses et qu'on a compris quelques lois physiques, on a l'impression qu'on sait tout et que ce qu'on peut pas encore expliquer complètement, c'est que ça existe pas ou que ça sert à rien. Ah ben c'est quand même. Écoute-moi. J'ai écouté une conférence. Ça se passe où? Ça se passe à Rennes, je crois. C'est quoi l'université des sciences ou je sais pas les mardis de la science ou un truc comme ça. Bon, il y avait quand même un physicien qui disait non mais moi je donnerai jamais. Il le dit, c'est tout. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Hein. Il dit moi je donnerai jamais d'homéopathie à mes enfants. Pour moi, c'est il y a rien quoi. Ça ne sert à rien.
J'ai entendu ça sur France Inter, une émission sur France Inter où des gens disaient, même des gens du corps médical qui disaient, mais il y a un côté placebo aussi.
Voilà, ils disent ça, c'est pas plus efficace qu'un placebo. Bon, moi j'ai ma vision des choses et surtout mon expérience qui me font dire le contraire et que on est tous d'accord pour dire que c'est informationnel et que en fait ce qui va être énergétique et informationnel n'est pas forcément toujours en fait observable avec les moyens tels qu'on les a à l'heure actuelle, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà, et qu'il faut peut-être d'abord passer par l'expérience des choses et le docteur Bach avec les moyens qu'il avait à l'époque a mis au point, à mon sens, hein, des remèdes qui sont fort utiles et qui, moi, m'ont sauvé la vie plusieurs fois.
Ah, sauvé la vie ? Waouh ! Faut nous en dire plus.
Non.
Bon. Et le processus de fabrication ?
Alors, le processus de fabrication, en fait, à l'époque, en fait, comment il a été inspiré ?
C'est un macérat ?
C'est-à-dire qu'il va dans la nature et puis il se dit mais attends dans cette rosée parce qu'il y avait quand même déjà des travaux sur la mémoire de l'eau, sur l'information, voilà. Et il se dit mais attends mais dans la rosée en fait déposée sur les végétaux, il y a forcément l'information du végétal qui est concentrée en fait là-dedans. Et en fait c'est au départ dans la rosée qu'il va aller chercher en fait ses remèdes homéopathiques. Et donc il décide de faire macérer effectivement donc des plantes, certaines fleurs qui sont à l'apogée de leur énergie vitale dans une eau de source la plus pure possible au soleil de manière à ce que la fleur puisse délivrer son information.
L'apogée de l'énergie vitale n'est pas concentrée dans le bourgeon d'où la gémothérapie un peu après ou c'est non?
Elle lui considérait que c'était dans la fleur, puis la fleur va s'ouvrir et va libérer en fait son information. C'est encore autre chose que la gémothérapie, mais la gémothérapie, on peut dire aussi que c'est aussi de l'information. On peut l'employer aussi pour le domaine émotionnel, psycho-émotionnel. C'est vrai.
Et donc alors macérat, nanana, il filtre, il met ça dans des fioles et il revend ça à prix d'or.
Non, il y a tout un procédé de filtration et de dynamisation puisqu'on
est. Ah oui, il y a une petite danse. J'ai entendu parler d'une petite danse.
Non, mais la dynamisation puisqu'on est quand même sur des procédés homéopathiques aussi. Voilà, donc il y a tout un protocole qu'il a établi, alors que certaines personnes l'ont un petit peu transformé. Et puis il a fallu aussi stabiliser le produit et donc il rajoutait du brandy à l'époque.
Du brandy, ah ouais, voilà, mais oui, il rescue avec ou sans alcool, ouais.
Voilà, c'est vrai que nous dans le rescue, on trouve du cognac, hein. Bon, qui a peut-être aussi son effet quand même, faut le dire.
Faut admettre que le cognac fait beaucoup.
Un petit coup de cognac là, comme ça fait des fois, ça détend. Faut le dire. Il nous a quand même laissé de vrais remèdes qui peuvent avoir leur utilité. Alors l'avantage, c'est que il y a des personnes qui disent, moi j'ai déjà pris des fleurs de Bach, ça me fait rien. Eh ben écoutez, au moins si ça vous a rien fait, au moins ça vous a pas fait de mal. Et c'est surtout, est-ce que c'était la bonne fleur? Voilà, parce que c'est très subtil, c'est un peu comme si on avait un orchestre à l'intérieur avec un des musiciens qui fait des fausses notes. Et si on n'identifie pas quel est le musicien, en fait, on peut toujours essayer de lui envoyer la bonne note ou lui donner le bon instrument. Il fera. Donc un vrai chercheur, un aventurier, et je dirais que c'était quand même un explorateur du monde sensible. J'ai envie de l'appeler comme ça, le docteur Bach. Voilà, c'était un homme sensible et dévoué qui a toute sa vie essayé de comprendre l'être humain, voilà, et de voir comment en fait il pouvait contribuer à l'aider en fait à faire face en fait à la maladie. Et lui-même, la preuve, a bien réussi puisque 19 ans après l'annonce de son pronostic vital de 3 mois, il était encore là et il s'est éteint tranquillement dans son sommeil.
C'était une belle histoire, le docteur Bach. Donc, à quel moment on se dit je peux avoir potentiellement besoin de fleurs de Bach?
Je crois que c'est surtout quand on n'arrive pas à se sortir d'une situation psycho-émotionnelle complexe, qu'on a du mal à prendre du recul avec ses propres émotions et qu'on se sent complètement empêtré en fait, et qu'on est dans quelque chose d'excessif qui va être voilà, qui va être nuisible, qui va nous...
Bah, il y a des psychologues pour ça, des psychothérapeutes.
Oui, mais parfois, on va pouvoir identifier une situation, en fait. Hein. On peut très bien identifier une situation. Par exemple, quelqu'un qui aurait très peur d'aller chez le dentiste. Il sait qu'il a peur d'aller chez le dentiste. Il peut peut-être comprendre pourquoi il a peur d'aller chez le dentiste. Peut-être que dans son enfance, ça s'était mal passé. Il a un traumatisme lié à ça. Mais c'est pas parce qu'il en a la compréhension... je dirais intellectuel, que c'est toujours facile en fait de dénouer au niveau émotionnel les blocages, ces blocages-là. Alors peut-être qu'un psychologue peut aider, mais moi, d'expérience, pour avoir aussi conseillé les fleurs de Bac et pour les avoir utilisées, il va y avoir une action en fait aussi sur l'inconscient et la libération des blocages. C'est une sorte de réinformation cellulaire.
Allez, on termine le rendez-vous du jour avec un peut-être « Ah, mais le saviez-vous donc est-ce... » Quoi ? Bah alors, non, mais non.
Non.
C'est pas une fois quand tu veux, tous les cinq du mois.
Exactement. Mais t'es d'une gourmandise. Je t'ai dit, non, le saviez-vous, c'est pas tout le temps.
T'es observatrice.
Comme ça, tu sauras apprécier quand ils seront là. alors, ça va être plutôt une conférence à regarder sur YouTube, une conférence très intéressante que j'ai regardée. Donc, c'est les fameux mardis de la science, à Rennes. Et c'était sur le blob. Est-ce que vous vous souvenez de ce film, le blob ?
C'est un organisme vivant,
oui.
Ouais, c'est ça, un peu extraterrestre, faut admettre.
Bah non, mais en fait, il est pas du tout extraterrestre.
Bah allez.
Non, mais c'est donc un organisme unicellulaire et en fait la conférencière est une Aveyronnaise. Voilà, est une Aveyronnaise et donc elle livre en fait toutes ses recherches mais de manière je trouve très ludique, c'est très bien vulgarisé, c'est très très chouette. Mmh. Et moi c'était 1h30 et je me suis juste régalé. Et je pense que je la regarderai encore.
On tape quoi
Conférence Le Blob.
Conférence Le Blob YouTube, voilà. C'était la recommandation de Delphine Henneke, que l'on retrouve la semaine prochaine, pour nous parler de quoi donc ?
Ça y est, hein, on rentre dans la saison où il va falloir quand même déjà penser à son immunité.
Allez, à la semaine prochaine. Belle journée Delphine et
ciao.
À très bientôt.
Merci.
Votre rendez-vous bien-être vous a été présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.